Chapitre 6. Charcot émergea le lendemain en milieu de matinée, dans un grognement. Janus, son épagneul, lui léchait la joue avec générosité. Il laissa le chien grimper sur le lit et se bagarra avec lui quelques minutes. L'animal adorait ses duels, mais sans doute moins que son maître, qui finit par lui coincer la gueule dans le creux de son coude. Charcot 1, Janus 0. Un peu plus tôt, il s'était enfin couché, après être resté à l'hôpital presque toute la nuit, dans une pièce aveugle proche de l'infirmerie que du personnel soignant avait libérée pour Nicolas. Audra était reparti pour d'interminables examens, entre l'obstétrique et les scanners ultra-perfectionnés de la neurologie. Les médecins ne se prononçaient plus, ils disaient juste d'attendre. Toujours attendre. Ça faisait déjà plus de 30 heures qu'elle avait été admise. Pourquoi les laissait-il mijoter ainsi? Entretenait-il encore un infime espoir, ou au contraire offrait-il simplement un répit à Nicolas, sachant qu'elle était condamnée? Frank versa des croquettes dans le bol de Janus et se fit couler un café serré. De vifs souvenirs remontèrent à la surface, notamment celui de sa première rencontre avec Audra en 2017. Un petit bout de femme, fringuée à la manière d'une commerciale, dont on aurait pu croire qu'elle serait tombée dans les pommes à la vue du sang. Mais elle était en réalité une guerrière, une ancienne du service de la traite des êtres humains qui avait également affronté les attentats de Nice de l'intérieur, une survivante que plus grand-chose n'effrayait. Gorgée bruyante d'arabica, flambée dans la gorge. La tasse vide de Lucie reposait au milieu de la table. Elle n'avait pas beaucoup dormi, elle non plus. Savoir Audra suspendue entre deux mondes l'avait anéantie. La vie continuait pourtant, et ce matin, elle avait emmené les jumeaux à l'école avant d'aller au 36. Frank les récupérerait en fin d'après-midi, ce qui lui laissait le champ libre pour mettre à exécution son programme. Il termina son petit déjeuner express, pensif, face à la fenêtre qui donnait sur leur modeste jardin, à Sceaux, au sud de Paris. Nicolas ne lui avait rien reproché quant aux événements dramatiques de cette nuit-là. Après tout, il n'y avait personne à blâmer. Chacun d'entre eux avait voulu coincer Fermont, comme il l'avait si souvent fait, emporté dans une spirale d'excitation. Mais Frank savait, au fond de lui, qu'une pointe d'orgueil l'avait poussé à agir au plus vite, alors qu'il aurait peut-être dû attendre le retour des groupes d'intervention pour assurer l'opération, ou se garer encore plus loin de chez Fermont. Peut-être bien, oui. Mais les regrets ne changeaient rien au passé. Ce qui était fait, était fait. Fatigué de ruminer, Charcot prit la route sous une fine pluie oblique et désagréable d'automne, une saison qu'il détestait. Il mit ensuite environ 1 heure pour atteindre le 11e et 15 minutes de plus pour trouver une place de stationnement du côté de la rue Saint-Maur. Après quoi, il s'engagea à pied dans un passage pavé protégé par une lourde porte cochère qui demeurait ouverte la journée. Des ateliers d'artistes, des verrières, de bas immeubles aux balcons fleuris bordaient un espace étriqué et verdoyant. Le genre de lieu qu'on ne soupçonnait pas en plein Paris, isolé du fracas ambiant. Un peu plus loin, il se retrouva face à une bâtisse qui, avec sa longueur et son architecture, ressemblait à un hangar défraîchi. Il était pourtant au bon numéro. Il sonna, sans succès. Après avoir frappé à plusieurs reprises au battant du bois vieillot, il tourna la poignée, au cas où. Nouvel échec. Il décida donc de se renseigner auprès des occupants de l'immeuble voisin qui abritait différentes sociétés de production, mais ne rencontra que des employés qui ignoraient qui habitait juste à côté. Il était cependant hors de question de repartir bredouille. Il devait parler coûte que coûte à cette Emma Dotti. Il revint alors vers le bâtiment et remarqua que les volets n'étaient pas totalement fermés. Ils avaient été, semblait-il, volontairement entrebâillés, comme pour laisser pénétrer la lumière. Frank glissa sa main par-dessous et palpa le loquet qu'il souleva d'un geste sec. La fenêtre, derrière, était-elle aussi entr'ouverte par le même système? Étonnant, vu la météo. Le flic eut un drôle de pressentiment, de ceux difficiles à expliquer mais qu'il avait souvent guidé durant toutes ces années d'enquête. Et il n'aimait pas ça. Il jeta un dernier coup d'œil alentour, le passage était toujours désert. avant de se hisser dans l'encadrement et de basculer à l'intérieur. Il y a quelqu'un ? Il venait d'atterrir dans un décor industriel au mur de briques rouges dont le plafond, 6 mètres plus haut, était composé de plaques de verre et de poutrelles métalliques auxquelles pendaient des bâches grises. La pluie crépitait sur le toit et il ne faisait franchement pas chaud. Une odeur douce, pareille à du miel, vint lui caresser les narines au fil de sa progression. Il écarta un rideau et eut un mouvement de recul lorsqu'il se retrouva face à un buste. Le moulage, d'une beauté dérangeante, montrait les organes d'un homme, du sternum au cou. Un poumon en place, l'autre disséqué, le cœur, le système veineux. La partie supérieure, intacte, affichait un visage serein, stoïque, comme sur certaines statues grecques. Charcot toucha, renifla. Selon toute vraisemblance, un objet fabriqué en cire. Il s'avança au milieu d'une foule muette de visages, de bustes, de pièces d'anatomie plantées sur des pics d'ébène, eux-mêmes maintenus par des piédestaux en bronze. Charcot songea à ces dessins qu'on voyait dans les livres médicaux ou ces œuvres morbides exposées sous verre dans les musées de sciences. À chaque bâche qu'il poussait, sa gorge se serrait davantage. Il avait la tenace impression que ces dizaines d'yeux, enfoncés dans des faciès livides et immobiles, allaient l'engloutir. Il se rendit dans une autre pièce, inspecta rapidement la bibliothèque, ouvrages de grands peintres, des beaux livres pour l'essentiel, quelques classiques de la littérature. Plus loin, il se retrouva dans un atelier d'artiste, avec ses tubes de gouache, ses pinceaux, ses récipients de cire colorée, ses outils qui servaient à tailler, gratter, découper. Là, il faisait plus sombre à cause de l'absence de vitres. Alors, il appuya sur l'interrupteur. Embrasement de photons. Ébloui, il s'approcha d'une large table sur laquelle reposaient 2 caisses en bois, hautes d'à peine 20 centimètres et dépourvues de couvercle. Le flic n'avait jamais vu une chose pareille. Les caisses abritaient des scènes miniatures où le moindre élément, le moindre personnage démontrait une précision de construction et un sens du détail incroyable. Emma Doty avait dû s'acharner des centaines d'heures pour arriver à un tel résultat. Et il lui sembla que ces ensembles étaient non pas des maquettes, mais des espèces de mini-pièces de théâtre destinées à être accrochées au mur d'un musée. La première boîte donnait à voir un homme squelettique, couché sur une planche en bois dans une cellule, ou plutôt une alcôve en pierre trouée d'une fenêtre en forme de trèfle. Un drap recouvrait la partie basse de son corps et ses mains osseuses étaient jointes sur le tissu froissé. Ses cheveux et sa barbe étaient d'un blanc immaculé. Quant à sa cage thoracique qu'un fin voile de peau habillait, ses frêles épaules et sa face creusée, elle ne laissait aucun doute. L'homme représenté était Redmore. Il l'effleura d'un doigt prudent, observa les moulages, les objets. Là encore, de la cire, ainsi que du bois, de la pierre, du latex. Une véritable œuvre d'art. La seconde boîte n'était que ténèbres. Le décor reproduisait une grotte sinistre, chaotique, aux parois tapissées d'une matière flasque, sanguinolente. Au fond, sur le sol, des montagnes de minuscules ossements humains, des crânes renversés et des corps meurtris enchevêtrés aux bouches hurlantes, avalés, agressés, assaillis par des démons répugnants. Sur une corniche, en hauteur, siégeait la mort, squelette aux larges ailes noires déployées. Les 2 cavités béantes de sa tête décharnée fixaient avec gourmandise une femme nue, suspendue à l'horizontale par des câbles au-dessus du tapis de cadavres agonisant. Comme en lévitation, ses longs cheveux noirs flottaient dans le vide. D'autres démons ailés guettaient, autour, accrochés à la pierre des parois, tels des charognards prêts à la dévorer. Charcot songea aussitôt à une représentation abominable de l'enfer. Sur la table de l'atelier, la présence de pinceaux extrêmement fins, de lunettes grossissantes et d'instruments proches de ceux utilisés en chirurgie laissait penser que Doty travaillait encore sur ses décors. Elle peaufinait sans doute les derniers détails. Frank les bombarda de photos avec son portable. La complexité de ses mises en scène témoignait d'un caractère obsessionnel ou à minima jusqu'au boutiste. Peut-être existait-il un lien entre ça et l'injonction thérapeutique dont Doty avait fait l'objet. En tout cas, cet inconnu l'intriguait de plus en plus. Les pièces étaient en enfilade. Il gagna la suivante, bien plus classique. Il repéra la porte en bois de l'entrée. En face, une cuisine simple, fonctionnelle, propre, ustensiles rangés, vaisselle faite. Le réfrigérateur débordait de nourriture, mais le bac à légumes avait noirci à cause de la pourriture. Les produits frais, yaourt bio, lait écrémé, étaient périmés depuis des semaines. Il s'orienta vers la pile de courriers posée sur l'îlot central. Une vingtaine d'enveloppes encore intactes. Frank s'attarda sur une carte de visite mêlée au paquet. Dessus se détachait une écriture manuscrite. « J'ai essayé de te téléphoner, messagerie directe, rappelle-moi. Memento mori. » Elle appartenait à un certain Armand Oppenheimer, directeur du musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis. Cet homme pourrait sans doute le renseigner. Le policier photographia également la carte, la remit en place et rejoignit la partie hangar. Il y avait remarqué un peu plus tôt un escalier métallique en colimaçon qui menait à une mezzanine. Là-haut, il découvrit une chambre sans fioritures, entourée d'une rambarde en acier qui offrait une vue plongeante sur les moulages. Un spectacle à faire cauchemarder même éveillé. Au-dessus du lit, un Christ sur sa croix. Et dans un coin, un bureau qui, visiblement, avait été rangé. Rien de traîné, pas même un ordinateur. Frank se planta là, immobile, en pleine réflexion. À l'évidence, Emma Doty jouait les abonnés absents depuis un bout de temps. Peut-être l'été, vu l'entrebâillement des fenêtres. Pour le moment, elle seule pouvait pourtant mener à l'identité de la victime de Fermont. Il fallait la retrouver. Mais comment ? Sans les outils informatiques de la police et sans son équipe, les recherches allaient être compliquées. Soudain, il perçut des bruits, en bas. Quelqu'un entrait.